Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Quoi de plus agréable, chers auditeurs, que de commencer cette année avec un sourire? Et ce sourire, ce sera le sourire du peuple étrusque. Ce sourire qui, même si on ne connaît pas grand-chose sur ce peuple extrêmement intéressant, passionnant, fascinant, même si on ne connaît pas grand-chose, on a tous vu ces figures avec ce sourire qui radieux et en même temps extrêmement serein. Pour parler des Étrusques, je vais dialoguer aujourd'hui dans Antiquissimo avec Michèle, c'est une dame, Michèle Tillard, qui est un professeur agrégé de grammaire, docteur en littérature. Vous avez été professeur en classe préparatoire au lycée Montesquieu du Mans, je crois.
Oui, c'est cela. Jusqu'à la fin de ma carrière, en 2020, pardon. C'est mal parti.
On ne voit pas le temps 2020. Passer. Non, en 2020. Donc, vous avez, je ne vais bien sûr pas engranger la litanie de tout ce que vous avez déjà publié, mais dans cette même collection, à savoir chez l'éditeur Ellipse, vous avez publié, par exemple, en 2020, un Socrate.
Oui, c'est cela, une biographie du philosophe.
Alors, vous êtes connu aussi pour beaucoup de livres, hein, je répète, mais aussi parce que de la grammaire française en 2021, l'essentiel de la grammaire française, et puis un livre dont on a beaucoup parlé, en tout cas moi j'en ai entendu beaucoup parler, Oser le grec.
Oui, en effet, c'est un manuel destiné donc un peu à tout le monde, aux étudiants mais aussi aux adultes, et qui est destiné à apprendre le grec ancien en partant de textes réels, de textes authentiques. Et donc, c'est avec des exercices corrigés, bien sûr, et une grammaire relativement simplifiée. Voilà.
Donc là, on est dans un concept qui est vraiment très, très à la mode, on va dire. Ce n'est pas un manuel, c'est donc entre le livre et le manuel, justement.
Voilà, c'est-à-dire que ça donne à la fois l'essentiel de la grammaire, qui permet évidemment ensuite de se livrer à des lectures ou des traductions, mais aussi c'est un mini-manuel de littérature.
Et donc, ce Oser le grec, je crois, vous allez me le dire tranquillement, a eu beaucoup de succès.
Oui, d'ailleurs, ça a été un peu la surprise, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une telle demande pour le grec ancien.
Oui, on s'aperçoit qu'il faut peu de choses pour titiller l'esprit des gens qui ont envie de découvrir ces civilisations que l'on dit mortes et qui ne le sont pas du tout. Et on a heureusement l'expérience de voir que beaucoup de gens s'y intéressent et beaucoup de gens savent que tous ces gens-là, et surtout pas les Étrusques, ne sont pas morts. Ils sont encore là.
Oui, tout à fait.
Alors ces Étrusques, alors moi quand j'étais à l'école, on m'a très peu parlé des Étrusques et c'était quelque chose qui m'avait que j'avais étudié un petit peu toute seule et je constate aujourd'hui que il y a énormément de livres parus sur cette civilisation et ce peuple, ces gens qu'on appelle de temps en temps Étrusqui, Tousqui, c'est les noms latins, Tyrrhénie, c'est les noms grecs, mais dans l'Antiquité ça c'est pas du tout, c'est tout à fait banal. Qu'un peuple, qu'une cité et plusieurs noms. C'est très, très banal.
Ah oui, tout à fait. C'est loin d'être le seul exemple. D'ailleurs, en Étrusque, eux-mêmes s'appelaient Racemna, le peuple.
Oui. Et ce qui fait que il y a aussi, par exemple, des localités qui, encore aujourd'hui, vont garder cette ambivalence dans les noms. Hein. J'étais très étonnée parce que j'avais l'habitude d'aller en Italie à Santa Severa et de voir que Santa Severa, ce n'est rien d'autre que Pirgi.
C'est vrai.
Et donc, il faut jouer avec ces différences géographiques, ces différences de noms, d'appellations, qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Hein. Entre Santa Severa et Pirgi, il y a tout un monde.
C'est vrai. Mais par contre, entre la Toscane et les Tousqui, il y a un lien tout à fait évident.
Voilà. Et Tyrrhénie, alors, c'est aussi simple de voir pourquoi les Grecs les appelaient ainsi.
Alors, oui et non, c'est souvent un nom propre, parce que la mer Tyrrhénienne, en réalité, c'est la mer des Étrusques. Donc, en fait, c'est le nom de la mer a pris son nom du peuple et non pas le contraire.
Voilà.
Alors, l'origine même du mot Tyrrhénos, c'est souvent le nom d'un héros éponyme. Et en particulier, là, ce serait le nom de l'un des fondateurs des cités, en particulier de Tyrrhénia.
Alors, pourquoi, c'est une question un petit peu délicate, mais pourquoi ce livre, après tant d'ouvrages, et d'ailleurs, si on regarde la bibliographie à la fin de votre livre, il y a beaucoup de choses intéressantes encore. Il y a des tableaux, il y a des cartes, alors au milieu, il y a des illustrations. Enfin, il y a énormément de choses dans ce gros livre qui est très gros, très érudit, mais qu'on lit facilement. Donc, une bibliographie énorme. Pourquoi avoir fait ce pari de faire un nouveau livre sur les Étrusques?
Alors d'abord pour des raisons personnelles, j'avais envie de revenir à d'anciennes amours que j'avais un peu laissées de côté pendant ma carrière. Ensuite, la seconde idée, c'était de faire une sorte de résumé global, de faire un peu de la vulgarisation en fait, c'est-à-dire donner sous une forme relativement accessible à tous. Les données les plus récentes de manière à rendre tout ceci accessible au plus grand nombre. Ça, c'était la seconde idée. Et puis, je voulais un peu élargir aussi le propos, c'est-à-dire essayer de déborder, en particulier dans la dernière partie, sur l'image que l'on a aujourd'hui des Étrusques, et en particulier sur leurs traces dans la littérature et l'art contemporain.
Oui.
Donc et ça, c'était la dernière...
Oui, et vous avez vraiment tout évoqué, des films, des livres. D'ailleurs, je recommande aux lecteurs de s'intéresser aux romans que vous proposez de lire et qui, effectivement, vont faire le lien... pour beaucoup de ceux que vous avez cités, entre notre époque et celle des Étrusques, comme s'il y avait un fil qui nous reliait à eux constamment.
Oui, c'est tout à fait cela. Je pense en particulier au sourire étrusque, précisément, qui montre à quel point, l'art étrusque, en réalité, quand on se contente de le regarder sans forcément avoir en tête toute l'histoire, il nous parle encore comme s'il était tout à fait contemporain. C'est un peu cette histoire qui est racontée dans ce roman qui m'a particulièrement interpellée.
Oui, et comme vous disiez, présent dans les formes les plus populaires, comme la BD. Hein. Oui. Il y a des romans, mais il y a aussi
également
beaucoup de BD qui sont de fort beaux ouvrages. Évidemment, Le tombeau étrusque de Jacques Martin, mais pas que. Donc, on a encore beaucoup à dialoguer avec ces Étrusques. Et vous avez choisi pour couverture la chimère. Alors, pourquoi ce choix, alors que ça devait être drôlement difficile de choisir une couverture, parce qu'il y a tellement de choses qui nous attirent dans l'art étrusque?
Oui, alors c'était un choix difficile, effectivement. Au départ, j'avais d'ailleurs pensé à une autre œuvre tout aussi caractéristique, qui était les petits chevaux de Tarquinia, qui sont une peinture, mais les chevaux de Tarquinia, qui sont une sculpture. Alors, j'ai dû y renoncer un peu pour des raisons de droit à l'image. Et finalement, j'ai préféré la chimère parce qu'elle correspondait un petit peu au même état d'esprit. C'est-à-dire que dans l'âme étrusque, ils ont un goût très particulier d'abord pour les représentations animalières. Ça, c'est vraiment quelque chose qui leur est propre et qu'on retrouve tout au long de leur histoire, et d'une part. Et d'autre part, pour les êtres un peu hybrides ou fantastiques. Et la chimère, elle correspond exactement à cette image, comme les chevaux de Tarquinia, qui étaient des chevaux ailés également. Donc c'est un petit peu, ça me paraît particulièrement caractéristique de l'art étrusque. Et l'autre point, c'est que cette chimère, elle leur vient des Grecs, puisque c'est en fait la chimère, le monstre qui a été vaincu par Bellérophon. Elle devait appartenir à un groupe de sculptures, un groupe absolument monumental. On a évidemment perdu la seconde partie du groupe, c'est-à-dire probablement le guerrier, Bellérophon. Mais par contre, on a gardé cet animal qui est vraiment magnifique, tout simplement.
Et dernier point, emblématique aussi, oui.
Et dernier point pour cette chimère, Elle est aussi intéressante parce que c'est un lien entre l'art étrusque et la Renaissance toscane, puisqu'elle a été en réalité, alors probablement pas restaurée par Benvenuto Cellini lui-même, mais très probablement par des gens qui lui étaient proches. Ouais. Et donc, c'est le lien entre cet art antique et finalement cette Renaissance, qui se voulait d'ailleurs une Renaissance plus ou moins étrusque.
Alors, dans votre livre qui comporte 14 chapitres, et curieusement, nous avons commencé par la fin, mais c'est très bien, avec la postérité des Étrusques qui est effectivement un point fort important de votre livre et de ce qu'on aime chez les Étrusques. Donc, dans ces chapitres, et il n'est bien sûr pas question ici de raconter tout et de prendre chapitre après chapitre, ce n'est pas du tout ce que nous allons faire. On va se focaliser sur certaines questions aussi. Alors, la première question, pour aider nos auditeurs à y voir un peu clair, un petit peu dresser un cadre spatio-temporel, c'est quoi les Étrusques? Qu'est-ce que l'Étrurie? Où ça se situe?
Alors, l'Étrurie est en, je dirais, trois parties. Il y a l'Étrurie originelle, qui est en gros la Toscane et une partie autour de Padoue, hein, de l'Ombrie, une partie de l'Ombrie. Les Ombriens et les Étrusques ont toujours eu des liens très étroits. Ensuite, c'est un peuple qui s'est quand même qui a tenté de s'implanter un peu partout en Italie. Donc il y a eu une implantation vers le sud, en direction de la Campanie, et qui a compris d'ailleurs la ville de Rome elle-même,
oui.
Et une implantation légèrement plus tardive, mais vers le nord, qui est la plaine du Pô, et qui s'étendait jusqu'à l'Adriatique, avec notamment les ports d'Adria et de Spina. Donc voilà pour le cadre spatial. Pour le cadre temporel, là il est beaucoup plus précis. Alors, pour ce qui est du début, on peut le situer aux alentours du 10e-9e siècle, c'est ce qu'on appelle la période villanovienne, qui est une période proto-historique, puisqu'il n'y a pas encore de texte.
Oui, et vous y consacrez tout un chapitre, hein, c'est très détaillé.
Oui, parce que j'aime beaucoup cette période-là, que je trouve particulièrement intéressante. Et elle se termine avec avec la conquête romaine, la fin de la conquête romaine, donc au 1er siècle.
Donc ça fait quand même une sacrée paire d'années tout ça et de zones d'influence importantes. Alors bien sûr, ma question, elle peut nous emmener très loin. C'est pas vraiment ce que je souhaite parce que nous avons peu de temps, mais qu'est-ce qui rapidement peut expliquer le déclin d'un peuple aussi avancé, aussi novateur?
Oh, il y a plusieurs facteurs. Peut-être parmi les facteurs les plus importants, je dirais que un certain fatalisme qui venait d'eux-mêmes, qui a fait que ils considéraient qu'ils étaient destinés à durer à environ 1000 ans. Et ça correspond effectivement à la durée qui leur a été impartie. Donc il y a eu cet aspect-là. Le second aspect, c'est que ils étaient quand même face à des concurrents particulièrement combatifs. D'abord les Grecs, hein, en particulier les Grecs de Sicile, et ensuite les Romains. Donc ça a été compliqué.
Et les Phéniciens aussi. Les Phéniciens.
Ouais. Troisième aspect, il n'y a jamais eu de nation étrusque.
Oui.
Il y a eu des cités étrusques, mais elles ont eu un mal fou à s'unir. Et au fond, ce qui a perdu la Grèce, face à la Macédoine d'abord, puis face à Rome ensuite.
Oui.
C'est exactement la même chose qui a perdu l'Étrurie. C'est-à-dire que les cités n'ont pas su s'unir quand il le fallait, comme il le fallait. Voilà. Et puis, dernier point, finalement, ils ont trouvé assez rapidement, je pense, leur intérêt à se fondre dans la citoyenneté romaine, qui offrait à la noblesse étrusque des perspectives assez extraordinaires. Et de ce fait, finalement, ils n'ont pas cherché véritablement à survivre en tant que nation, dans la mesure où ils pouvaient survivre par d'autres moyens, en quelque sorte.
Très bien. Alors, nous allons marquer une petite pause musicale. Oui. Sonu Diade, c'est une musique corso-étrusque. Et ça nous amènera dans la deuxième partie à parler d'une région chère à mon cœur, la Corse. À tout de suite, Michel.
Thank you.
Alors, c'est Antiquissimo, c'est Radio Alliance Plus, et c'est Michel Tillard qui nous partage son livre passionnant qui s'appelle « Les Étrusques », tout simplement parce que ça parle des Étrusques, ce dont nous nous réjouissons d'évoquer le profil aujourd'hui. Alors, dans ce livre qui comporte 14 chapitres, on a déjà dit que le 14e et dernier évoquait d'une manière vraiment intéressante la postérité des Étrusques. Il y a 8 chapitres qui patiemment évoquent tous les voisins, tous les concurrents de ces Étrusques. Et donc, on apprend énormément de choses là-dessus. Puis, à partir du chapitre 9, c'est la société étrusque que Michel nous propose d'aborder. Et dans le chapitre 10, c'est là-dessus que je voudrais peut-être aujourd'hui mettre l'accent. Elle évoque cette fameuse langue étrusque dont on a longtemps dit qu'elle était indéchiffrable. Et vous nous apprenez au chapitre 10 qu'il y a des documents beaucoup plus longs que précédemment qui ont été trouvés, comme le livre de l'un de Zagreb, qu'on peut voir au musée de Zagreb. Moi, je ne l'ai pas vu, mais grâce à vous, on a dans ce chapitre 10 une manière de le connaître. La tuile de Capoue que l'on peut voir au musée de Berlin et enfin la cippe de Pérouse. Et ces documents et d'autres vous aident à mieux partager la connaissance de cette langue étrusque. Qu'est-ce qu'on en sait de plus aujourd'hui? Vous avez dressé un vocabulaire, vous avez donné plein d'indications. Évidemment, aujourd'hui, je ne peux pas vous lire tout ça. C'est à vous, cher lecteur, de faire la démarche d'acheter le livre et de le parcourir. Mais vous, Michel, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs pour résumer ce qu'on connaît mieux maintenant de cette langue étrusque?
Alors, on en connaît à la fois beaucoup de choses, parce que nous avons donc des documents qui sont de nature différente. On a effectivement quelque chose qui ressemblerait soit à un jugement à propos de transactions commerciales. On a également des textes qui semblent des textes juridiques. J'ai bien semble, parce qu'on n'a pas vraiment de certitude. Et puis, on a évidemment beaucoup de textes issus de documents funéraires. Mais alors du coup, on a à la fois des connaissances quand même qui commencent à devenir un peu plus intéressantes sur le plan de la phonologie, sur le plan de la syntaxe, sur le plan du vocabulaire, mais on reste quand même extrêmement limité du fait qu'on n'a pas de littérature. Donc il manque encore énormément de vocabulaire, énormément aussi de... On ne sait rien, par exemple, sur le style des écrivains. On ne sait même pas s'il y a eu véritablement
des écrivains. Oui, c'est la question que je vais vous poser. On ne sait rien là-dessus. Hein.
Non, on ne sait toujours rien, malheureusement. Et on n'a surtout pas trouvé de pierre de Rosette, c'est-à-dire de documents véritablement bilingues ou trilingues qui nous permettraient d'en savoir plus long. Donc, on progresse, mais lentement.
Voilà. Donc, bien sûr, c'est une langue qui n'est pas indo-européenne. C'est aussi un gros écueil.
Ah, c'est une langue totalement isolée en réalité. Et c'est ça, parce qu'elle pourrait ne pas être indo-européenne, mais appartenir quand même à un groupe déjà connu. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, on est assez désarmé face à cela.
Et en plus, elle est sinistrograde d'une certaine façon, puis de l'autre, il y a un petit peu un mélange, j'ai l'impression.
Alors oui, ça, c'est pas véritablement un problème. C'est une langue, en fait, qui est extrêmement facile à lire, en ce sens que l'alphabet, on le connaît parfaitement. C'est l'origine de l'alphabet latin. Mmh. Donc, en fait, ça se lit très facilement et ça ne se comprend pas du tout. Donc, c'est une frustration permanente.
Alors, vous donnez copie de plusieurs inscriptions funéraires et il y en a une d'une inscription de Tarquinia, donc qui se lit, dites-vous, de gauche à droite. Et on peut la traduire par « J'ai été donné par Gavius » ou « Gavius me donne ».
C'est ça.
Donc, on a comme ça des petites approches parcellaires.
Oui, alors... Bon, c'est un exemple assez court, hein. Il y a des exemples évidemment beaucoup plus longs, mais effectivement, c'est ce type de... Alors, ça nous a permis quand même d'avoir, par exemple, un certain nombre de chiffres. On sait compter de 1 à 8, ou je ne sais plus exactement, 1 à 10, avec parfois des incertitudes d'ailleurs sur les noms de nombres, mais enfin, on y arrive à peu près. On sait également conjuguer certains verbes, on sait évidemment les noms de parenté, ce qui est quand même important, c'est ça qui nous a permis de déterminer que c'était une langue isolée. Mais évidemment, ça ne va pas beaucoup plus loin que cela.
Et alors, ce qui explique aussi cet écueil, c'est que cette langue étrusque, elle n'a pas tardé à disparaître. Alors, sans oui. doute que les Romains ont fait en sorte, peut-être, de faire oublier tout ce qu'ils devaient à ce peuple étrusque.
Et... Je ne pense pas, non.
Non ?
Non, je ne crois pas qu'ils l'ont fait volontairement. Mais il se trouvait que les Étrusques étaient des commerçants. Or, pour commercer, eh bien, il faut quand même utiliser une langue qui soit susceptible d'être parlée par d'autres. Or, les Étrusques avaient à leur disposition la langue phénicienne, la langue grecque et assez rapidement la langue latine. C'est assez naturel que finalement la leur soit devenue une langue finalement qu'on parlait sans doute en famille, qui servait pour les archives personnelles, etc., mais qui n'était plus utilisée dans la vie publique en quelque sorte. Et oui. très rapidement, et ils se sont alignés donc sur le grec et sur le latin.
Mais ça recoupe, il me semble, une réflexion que vous avez faite tout à l'heure dans la première partie, à savoir que les Étrusques n'étaient pas ambitieux, quoi. Ils ne tenaient pas spécialement ils ne revendiquaient rien de spécial dans d'enjeu national, je vais aller dire.
Ils avaient d'autres types d'enjeux, des enjeux religieux par exemple.
Oui.
Là, dans le domaine religieux, ils ont eu une influence absolument considérable sur la civilisation romaine et ils tenaient énormément à leur Etrusca Disciplina, ils le disaient en latin, et à leurs livres sacrés, hein, qui ont d'ailleurs très vite été traduits en latin et dont on connaît des rudiments par la version latine. Donc là, ils étaient de même leur tradition, hein, leur tradition, par exemple...
Les jeux funèbres,
la tradition artistique, la musique, le théâtre, bien évidemment.
La danse.
La danse également. Et puis aussi l'architecture, la construction des villes, par exemple, l'urbanisme. Donc tout ça, c'était des choses auxquelles ils tenaient énormément. De même, les insignes du pouvoir, etc. Toutes choses qu'ils ont d'ailleurs transmises aux Romains.
Oui, d'ailleurs, vous dites que beaucoup de choses sont restées. Alors, je voulais quand même rendre un petit hommage en passant à l'empereur Claude, qui n'était pas d'origine étrusque, mais qui était lié par sa première femme à ce monde-là, et qui, lui, était très érudit, semble-t-il.
Ah, c'était même un étruscologue,
oui.
peut-être l'un des premiers étruscologues que nous connaissions. Et il est grand dommage qu'on n'ait pas gardé son œuvre.
Exactement, c'est ce que j'allais souligner.
Oui.
Et vous évoquez aussi peut-être, mais avec un point d'interrogation me semble-t-il, Virgile.
Oui, alors Virgile, on ne sait pas, parce qu'il s'appelle Marou de son prénom. Et
oui.
Marou, c'est le nom Marou que l'on a en étrusque, qui signifie le prêtre. Donc, comme il était originaire de Padoue, c'est-à-dire
oui.
Finalement une ville où il y a eu une présence étrusque très importante, on ne sait pas exactement s'il ne serait pas par hasard d'origine étrusque. D'autant que l'image qu'il donne des étrusques dans l'Énéide, par exemple, n'est pas calamiteuse. Il y a évidemment la figure détestable de Maisence, mais à côté de cela, il y a des étrusques qui ne sont pas du tout représentés de cette manière-là.
Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Virgile, c'était quand même l'apôtre du pouvoir augustéen romain, quoi. Donc,
Oui. Mais n'oublions pas non plus que le meilleur ami d'Auguste, c'était un étrusque.
Oui, bien sûr. Alors, donc, quelques petits objets aussi dont vous rappelez que dans le monde romain, ils ont de l'importance. Le titulus, justement, on a parlé de religion, mais le titulus qui est ce bonnet conique pointu et que
oui.
les Romains ont adopté aussi pour leurs prêtres.
Tout à fait, qui était très utilisé, qui vient directement des Étrusques. Ça fait partie d'ailleurs de la panoplie étrusque, comme la toge. Alors, c'est pas tout à fait la toge romaine,
oui.
c'est la thébaine, elle est un peu plus courte, mais disons que c'est très certainement l'origine de la toge romaine.
Alors, vous évoquez le litus, l'éperon, enfin, il y a beaucoup de choses que les Romains... Alors, on ne parlera pas non plus de tout ce qui a rapport avec... Le domaine thermal, l'eau douce
oui.
qu'ils ont parfaitement maîtrisée. Et
bien
tout
sûr,
ça,
oui.
les Romains s'en sont fait les héritiers. J'aimerais peut-être qu'on s'attarde maintenant donc, à parler de la Corse. Je l'ai dit tout à l'heure qu'elle était chère à mon cœur, mais apparemment chère au cœur des Étrusques aussi. Et je remarque qu'ils ont aimé, c'est tout à fait normal, un peuple de navigateurs comme eux, ils ont aimé les îles, les grandes îles comme la Corse, la Sicile, la Sardaigne. et qui ont été les trois que je viens de citer, des enjeux aussi pour les Grecs et pour les Puniques.
Oui, tout à fait. Disons que ça s'explique en partie, alors évidemment, parce que c'est, en elle-même, ces îles étaient très importantes. Il y a eu, dans la haute antiquité en particulier, un rapport très étroit entre la Sardaigne et les Étrusques. Mais en ce qui concerne les îles, elles étaient aussi essentielles dans les voies commerciales. À l'époque, on ne pouvait pas se permettre de partir très loin en mer sans avoir des lieux d'escale, et les îles étaient absolument indispensables pour cela. D'où l'importance d'une ville comme Alalia,
oui,
qui deviendra notre Aléria, par
oui,
exemple, qui a donné lieu d'ailleurs à une féroce bataille entre les Grecs et les Étrusques.
Et vous expliquez, et, on va devoir aller un petit peu vite parce qu'on est à la fin de l'émission,
oui,
mais vous expliquez pour cette bataille que les Grecs disent qu'ils l'ont gagnée, mais visiblement, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Alors, je conseille de lire votre livre pour savoir tout ça par le détail. C'est vraiment passionnant, y compris, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez aussi sur l'étruscophobie ambiante des gens qui trouvaient que ces Étrusques étaient trop riches et qu'il fallait leur faire la peau. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Michel. J'espère qu'on se retrouvera bientôt et j'incite tout le monde à lire Les Étrusques. Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Sur Radio Alliance Plus, la musique d'ici, d'ailleurs.